J'ai une très bonne question pour vous. Peut-il y avoir un réveil dans tout un pays? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse qui pourrait changer le cours de l'histoire, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On parle encore de réveil aujourd'hui. Et je suis convaincue que c'est un sujet salutaire pour chacun de nous. J'ai bien hâte d'entendre ce que la parole de Dieu va nous enseigner suite aux questions que voici. Est-ce qu'un réveil commence par un mouvement de masse? Où commence-t-il? Que nécessite un réveil? Que signifie le terme « se repentir »? Est-ce qu'un dirigeant d'église peut avoir à se repentir? Que devons-nous faire quand nous voyons l'immoralité s'infiltrer dans notre Église? Qu'est-ce que les croyants doivent faire pour aider leur pays à vivre un vrai réveil? Demeurez avec nous. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous enseigner ce qui est écrit dans les Saintes Écritures en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur mon Dieu, on a besoin de toi, on a besoin de ta présence, on a besoin que tu nous enseignes. Viens parler à nos cœurs et dispose nos cœurs à ton bel enseignement. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons parlé du roi Manassé, du roi Amon et du roi Josias. Le roi Manassé a entraîné le royaume de Juda dans l'idolâtrie, ce qui a attiré la colère de Dieu sur la nation. Le péché de Manassé se pratique couramment aujourd'hui. Amon a suivi les traces de son père, et il n'y eut rien d'exceptionnel sous son règne. Par contre, Josias marcha dans les voies de l'Éternel, et son règne connut le plus grand réveil de l'époque des rois. Ce réveil commença dans le cœur d'un seul homme, Josias. Aujourd'hui, nous allons examiner ce qu'est un véritable réveil spirituel, et comment cela se produit. Nous relirons quelques versets de la dernière émission en examinant le réveil qui eut lieu sous Josias. Chers amis, débutons notre lecture. Deux Rois, chapitre 22, versets 1 et 2. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja, de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. La seule chose qui pourrait faire du bien dans notre pays est un véritable réveil religieux, chers amis. Partout, nous observons de l'immoralité, de la corruption et le non-respect des lois. De nombreux pasteurs sont des théologiens libéraux, c'est-à-dire qu'ils ne croient plus à la parole de Dieu. La parole de Dieu est mise de côté dans de nombreuses églises. Revenons à la source même, à la révélation de Dieu, à la parole de Dieu. Un réveil commence avec un seul individu. Premièrement, nous devons nous rendre compte qu'un réveil n'a jamais débuté par un mouvement de masse. Le réveil est quelque chose de personnel et d'individuel. Ce n'est pas le résultat d'une activité religieuse ayant pour but d'en déclencher un. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, ce ne sont pas des politiciens qui s'accusent mutuellement d'être malhonnêtes. Nous avons besoin de politiciens qui savent dire « J'étais dans l'erreur, je vais mettre ma vie en règle avec Dieu ». Le roi Josias fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, et c'est avec lui qu'a débuté le réveil. Poursuivons notre lecture, versets 3 à 5. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Scaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il lui dit, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel. Un réveil commence parmi les chrétiens. Josias a commencé par mettre de l'ordre dans le temple, dans la maison de Dieu. Il ne pouvait demander au peuple de respecter la loi mosaïque sans restaurer le temple et les sacrifices. Nos églises ont aussi besoin de restauration, mais je ne parle pas des bâtiments. Nous avons de beaux bâtiments d'église en Amérique du Nord. Je parle de la santé spirituelle de ceux et celles qui composent l'église, de ses membres. Qu'importe la confession religieuse à laquelle elles appartiennent. Aujourd'hui, nous voyons de beaux bâtiments d'église dans certains quartiers, mais le dimanche, on n'y voit presque pas de voitures. Pendant la semaine, rien ne s'y passe. Malgré que les bâtisses soient des chefs-d'œuvre d'architecture, le Saint-Esprit s'y trouve-t-il? Il y a plusieurs années, j'ai lu une anecdote dans un livre chrétien, mais malheureusement, je serai en peine de vous donner le titre et l'auteur de ce livre. Deux quartiers, un riche et un pauvre, étaient avoisinants dans une grande ville. Une dame du quartier pauvre avait remarqué une belle église, un beau bâtiment d'église dans le quartier riche. Un jour, elle vint à connaître le Seigneur Jésus et l'invita dans son cœur, afin qu'il devienne son sauveur personnel. Elle demanda pour devenir membre de la belle église qu'elle avait remarquée depuis longtemps. Malheureusement, aux yeux des gens riches qui fréquentaient cette assemblée, elle ne venait pas du bon quartier. Le conseil de l'église refusa donc sa demande. Le pasteur ne répondit pas à la dame, mais un jour, il la croisa dans la rue. Il lui apprit que sa demande avait été refusée. « Oh, ce n'est pas grave, » répondit la dame. « Le Seigneur Jésus m'a dit que lui non plus n'était pas membre de cette église. » Les chrétiens ne témoignent plus. Ils ne parlent presque plus du Seigneur Jésus. Si l'on parle d'évangéliser, de partager notre foi, les chrétiens se mettent à trembler. Nous n'avons pas besoin d'entendre davantage de platitudes pieuses et de se taper mutuellement dans le dos. N'importe quel club social peut faire cela mieux que nous, chers amis. Nous avons besoin d'églises dans lesquelles le Saint-Esprit agit. Verset 8. Alors, Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Scaphane, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Scaphane, et Scaphane le lut. Un réveil nécessite un retour à la source, à la parole de Dieu. La troisième chose qui a contribué au réveil, sous Josias, fut un retour à la parole de Dieu. Judas avait les Écritures, mais elles étaient égarées dans le temple. Personne ne les lisait. Lorsque Ilkija les trouva, Josias les lut et les appliqua à sa vie. « Mes amis, notre seule arme est la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Hébreux, chapitre 4, verset 12. Je ne peux pas vous proposer un raccourci à cela pour grandir spirituellement, ni de voie plus facile. Il n'y a qu'un seul moyen, chers amis, c'est de lire la parole de Dieu. Une bonne partie de la littérature chrétienne est inutile, car elle présente et promouvoit des méthodes et des techniques plutôt que de méditer la parole de Dieu elle-même. Nous n'avons pas besoin de toutes sortes de livres ou des livres de tel ou tel auteur. Ce n'est pas le livre du mois, le best-seller qu'il faut nous procurer, mais il faut s'en tenir au livre de tous les temps, la parole de Dieu, la Bible. Dans de nombreuses églises, la parole de Dieu est mise de côté. Les pasteurs emploient des méthodes, ils mélangent la psychologie et des philosophies à l'enseignement biblique. Ils lisent de nombreux livres, mais lisent très peu la Bible. Nous devons redonner à la Bible la prominence qu'elle aurait toujours dû avoir dans notre vie et dans celle de l'Église. Verset 11. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Signe de la repentance, chers amis. Repentance, ingrédient essentiel à un réveil. La quatrième étape vers un réveil est la repentance. La lecture de la parole de Dieu résulta en la repentance de Josias. Lorsqu'il entendit les paroles du livre, Josias déchira ses vêtements, ce qui démontra la force de ses émotions. Il fut ému, touché par la parole de Dieu. Les Écritures lui ont révélé les péchés du peuple et son péché. Sans cette lecture, Josias et ses serviteurs n'auraient jamais su combien ils s'étaient détournés de Dieu. Un pasteur qui aimait le Seigneur a un jour dit aux anciens, aux diacres, aux responsables de l'Église, que celle-ci avait besoin que ses membres du conseil s'inclinent devant Dieu et se repentent. Quelle fut leur réaction? Bien, ils ont congédié le pasteur. Ils ne voulaient pas que leurs péchés soient exposés à la lumière de la parole. Si nous étudions la parole d'un cœur sincère, désirant plaire à Dieu, nous serions vite convaincus de péché. Nous pleurerions à cause de notre péché. Il y aurait un vrai réveil. Le réveil de Dieu commence par une véritable repentance. De réaliser que nous avons offensé Dieu, que nous avons péché envers Dieu. Verset 13. Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Josias a peur, car il sait que le peuple et lui méritent la colère et le jugement de Dieu. Cependant, la réponse de Dieu, faite par la bouche de la prophétesse Hulda, révèle la justice et la grâce de Dieu. Versets 16 et 17. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Mais voyez la grâce de Dieu manifestée à l'égard de Josias, les versets 19 et 20. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. » Ils rapportèrent au roi cette réponse. Maintenant, nous passons au chapitre 23. Observez les thèmes déjà mentionnés que l'on retrouve dans ce réveil. Deux rois, chapitre 23, versets 1 à 3. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis, il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Le peuple a non seulement promis de lire la parole, mais il s'est aussi engagé à l'observer. Nous pourrions avoir des réveils dans de nombreuses églises, mais il faut une conviction de péché suscitée par la Bible et le Saint-Esprit. Lorsque la Bible parle à notre cœur, il s'ensuit une conviction de péché. Se repentir signifie demander pardon aux personnes que nous avons offensées et réparer les torts lorsque c'est possible. Se repentir, c'est se détourner du péché et aller vers le Seigneur Jésus. Un évangéliste prêchait dans l'État de New York. Il proclama l'Évangile pendant une semaine, mais personne ne fut touché. Un soir, le président du conseil des anciens de l'Église s'est avancé, versant des larmes de repentance. Ceci a brisé la glace, car cet homme était l'obstacle à un réveil dans cette Église. Il demanda pardon à une personne qu'il avait lésée, et il pria toute la nuit. Lorsqu'un péché lui revenait à l'esprit, il se rendait chez la personne offensée en pleine nuit pour lui demander pardon et réparer son tort si possible. Le lendemain, il y eut un réveil en ville. Puisqu'il était roi, Josias avait une influence importante. Il va établir et exécuter un plan audacieux. Parce qu'il s'est repenti, il part en grande. Premièrement, il sort les idoles du temple de Dieu. Verset 4. Le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en fit porter la poussière à Bethel. Tout ce qui a été utilisé pour servir les prophètes de Baal et les dieux Baal fut détruit, et les cendres jetées hors vue de Jérusalem. Ensuite, Josias fit disparaître l'immoralité. Verset 7. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Aujourd'hui, des églises acceptent des comportements immoraux condamnés par la parole de Dieu. Nous devrions accepter ces actions faites entre adultes consentants, disent des groupes, même entre des adolescents consentants? Il n'y a rien de mal avec les activités sexuelles? Qui dit qu'il n'y a rien de mal à tout cela? Même si vous avez un doctorat, ce n'est pas à vous de porter des jugements qui contredisent la parole de Dieu. Dieu a averti que toute forme de péché sexuel attire la colère de Dieu. Ce fut le cas dans le passé, et cela n'a pas changé, chers amis. Nous avons changé, mais pas Dieu. Josias eut le courage de s'opposer à l'immoralité rampante de son temps. Josias mit aussi fin au sacrifice des enfants. Verset 10. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Josias détruisit les idoles, les autels et les hauts lieux que les rois précédents avaient érigés. Il détruisit même des idoles hors du territoire de Juda. En effet, il alla jusqu'à Bethel. Dans 2 Chroniques, chapitre 34, verset 33, le résumé nous est mentionné. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. À Bethel, il fit le monument du sépulcre de l'homme de Dieu qui avait prophétisé les actions de Josias. C'est ce que vous pourrez lire dans 1 Rois chapitre 13, verset 2. Revenons à notre texte. 2 Rois chapitre 23, verset 17 et 18. Il dit, « Quel est ce monument que je vois ?» Les gens de la ville lui répondirent, « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as accomplies. » Et il dit, « Laissez-le, que personne ne remue ses eaux. » On conserva ainsi ses eaux avec les eaux du prophète qui était venu de Samarie. Maintenant, Josias va faire une action positive. Il va réinstaurer la célébration de la Pâque. Versets 21 à 23. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Chers amis, cherchez-vous une religion sans Jésus-Christ? Célébrer la Pâque fut une chose merveilleuse, car elle ne l'avait pas été depuis plusieurs années. La Pâque est une image du Seigneur Jésus-Christ. Le peuple avait oublié ce symbole. Paul a dit, « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Aujourd'hui encore, nous cherchons une religion sans Jésus-Christ. La divinité du Seigneur Jésus est tournée au ridicule dans des facultés théologiques et à partir de nombreuses chaires, c'est-à-dire là où la parole de Dieu est proclamée. De nombreuses personnes rejettent la valeur de la mort expiatoire du Seigneur Jésus. Certains pasteurs trouvent que les anciens livres de Cantiques parlent trop du sang de Jésus-Christ. Nous sommes bien disposés à parler de l'amour de Dieu, mais pas du sacrifice de Jésus-Christ, qui manifeste la haine et la colère de Dieu à l'égard du péché. Mes amis, la seule chose qui peut vraiment aider notre pays est un réveil spirituel. Certains se demandent si cela est possible. Je pense que oui. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. 2 Samuel, chapitre 5, verset 24. Un bruit de pas dans les mûriers peut se faire entendre aujourd'hui. Au 14e et au 15e siècle, Dieu a suscité Wycliffe et John Knox. Au 16e siècle, la réforme déferla sur l'Europe avec Luther, Calvin et Zwingli. Au 17e siècle, Dieu suscitait le mouvement puritain. Au 18e siècle, Wesley et Whitfield ont dirigé un grand réveil. Au 19e siècle, c'est d'Oxford que partit un autre réveil qui résulta en un mouvement missionnaire. À la fin de ce siècle, Dieu suscitait Spurgeon, Moody et Finney. Le 20e siècle n'a pas vu de grands réveils transformateurs de la société. Il y a eu quelques réveils locaux. Le 20e siècle a vu deux guerres mondiales, une grande récession, mais nous n'avons rien appris de tout cela, malheureusement. Les gens se sont éloignés de Dieu plutôt que de revenir vers lui. Aujourd'hui, au 21e siècle, c'est un retour à l'idolâtrie, à la sorcellerie et à l'immoralité. Cependant, la situation ne s'améliore pas. Nous sommes dus pour un réveil. Que Dieu suscite un homme parmi les hommes pour ce réveil spirituel. Ce ne sont pas les protestations, les grèves et l'action politique qui vont changer quoi que ce soit. Nous avons besoin de convictions de péché. Nous devons confesser notre tiédeur et notre indifférence à l'égard de Dieu. Quand est-ce que vous avez confessé votre indifférence à l'égard de Dieu la dernière fois? L'aimez-vous? Est-il votre sauveur? Mes amis, je suis certain que nous pouvons avoir un réveil religieux dans notre pays, comme Dieu en a accordé autrefois. L'histoire de Josias est fort encourageante. Prochaine émission, 2 Rois chapitre 23 verset 28 à chapitre 25 verset 30.
Merci beaucoup, Régent. Quel beau message! On a tellement besoin d'un grand réveil dans notre province et même dans toute l'Amérique du Nord. Mes amis, j'ai déjà partagé avec vous qu'on avait eu des conférences sur le réveil à l'église où je suis membre. Plusieurs parmi nous avons bénéficié de ces conférences qui ont duré environ 19 jours et je m'en souviens bien. Les conférenciers nous encourageaient justement à vivre chacun un réveil personnel dans chacune de nos vies, en nous repentant sincèrement, tout comme Régent nous l'a partagé aujourd'hui. Régent a aussi mentionné un pasteur qui aimait le Seigneur et avait dit un jour aux anciens et aux diacres de son Église que celle-ci avait besoin que les membres du conseil s'inclinent devant Dieu et se repentent. Il a ajouté que leur réaction avait été de congédier leur pasteur, parce qu'ils ne voulaient pas que leurs péchés soient exposés à la lumière de la parole. Je suis bien heureuse que ce ne soit pas le cas dans mon Église. Quand on a eu les conférences sur le réveil, il y a eu un réveil réel dans la vie de plusieurs parmi nous. Et je me rappelle que ça a commencé par mon pasteur et quelques anciens et ouvriers de l'Église. On s'est repentis. Parce que qui n'a jamais à se repentir? Tant qu'on va vivre dans ce corps de chair, on va demeurer pécheur. Mais quand on se repent, c'est agréable à Dieu. Il nous pardonne et nous fait prendre un nouveau départ. Je peux vous dire personnellement que Dieu a produit un grand réveil dans ma vie lors de ses conférences et qu'il continue son œuvre en moi. Mais quand je m'aperçois que j'ai péché, soit par une parole, un geste, une pensée, je me repens. Je demande pardon à Dieu. Je le remercie pour son pardon parce que je suis certain qu'il me l'accorde. Dans la première épître de Jean, au premier chapitre, au verset 9, il est écrit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mon ami, je t'encourage à mettre ceci en pratique. Et si tu penses que tu n'es pas pécheur, écoute ce que Jean dit au verset suivant. Il dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est point en nous. Mon ami, si tu es déjà un croyant, si tu as déjà reçu le pardon de tes péchés et le don gratuit de la vie éternelle, eh bien, dès que tu t'aperçois que tu as péché, repens-toi. Confesse ton péché à Dieu. Demande-lui de te pardonner et remercie-le pour son pardon. Tu vas te sentir libéré et tu vas continuer à jouir de la communion de Dieu, de sa présence, sans laquelle il est impossible d'être heureux. Et toi, mon ami, toi qui n'as pas encore reçu le pardon de tes péchés, le don gratuit de la vie éternelle, est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix pour payer la dette de ton péché? Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité glorieux, qu'il est vivant et qu'il est auprès du Père maintenant? Crois-tu qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu fait homme et qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que par la foi en lui? Si tu le crois, je t'invite à le recevoir maintenant comme sauveur et seigneur de ta vie. Repens-toi, détourne-toi de tout ce que tu vois comme étant péché dans ta vie. Demande pardon à Dieu, demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Si tu crois, tu seras sauvé. C'est aussi simple que ça. Tu n'as qu'à recevoir le cadeau de la vie éternelle que Jésus t'offre en ce moment parce qu'il t'aime.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle.
Pour nous rejoindre, au téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Ou à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Bonne fin de semaine à tous.
Et à lundi.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.